Actu SF, les podcasts.
Bien, bonjour à tous, bienvenue donc dans cette table ronde donc consacrée au rétrofuturisme, hein, les mondes rétrofuturistes quand la science-fiction rêve du passé. Alors, nous allons commencer simplement par la présentation de nos trois invités. Donc, Emmanuel Chastelière, donc né en 1981, qui a toujours rêvé de belles histoires, et puis qui s'est mis évidemment à écrire. Mais parallèlement à ses études en histoire, il lance donc en 2000 le site elbakin.net, dédié à la fantaisie sous toutes ses formes. Donc, c'est un site qui est aujourd'hui absolument incontournable, qui s'est doté d'une association et d'un prix littéraire en 2010, voilà, et qui s'est imposé comme une référence dans le paysage français. Alors, en tant qu'auteur, nous citerons peut-être Emmanuel plutôt Sébastopol, que nous n'avons pas ici, et puis, oui, par Sébastopol, excusez-moi, et L'Empire du Léopard, donc vous voyez ici, dernière publication, voilà. Ensuite, nous avons donc Floriane Soulas. Alors, Floriane, au départ, vous étiez ingénieur,
oui.
Voilà, plutôt scientifique, puisque vous avez commencé ou terminer une thèse en physique, voilà, c'est ça. Mais bon, vous vous mettez à l'écriture en 2013 parce que vous vouez une véritable passion à la littérature, et puis vous aimez évidemment l'heroic fantasy, et puis les auteurs comme Tolkien, Gemmell et beaucoup d'autres. Et puis vous avez aussi appris à aimer la science-fiction avec Asimov et Orwell. Et donc, eh bien, vous avez ouvert très récemment une chaîne YouTube sur vos lectures et sur vos coups de cœur qui s'appelle Flowbooking. Et vous êtes également donc l'auteur de Rouille. C'est votre premier roman chez Scrinéo. Voilà. Ensuite, eh bien, Joanne Elliott. Donc, Joanne, vous avez quand même maintenant une assez longue carrière, on va dire, ou assez grande carrière. Vous avez écrit votre première nouvelle en 1999, donc ça fait presque 20 ans maintenant. Même 10 ans avant, vous voyez, 30 ans, donc c'est bien, j'avais bien raison hein, pour une assez longue carrière. Voilà, et puis dans le même temps, en 99, un premier roman assez remarqué, La Lune seule le sait, qui obtient le prix Rognier-Aîné en 2001, suivent Reconquérant et Pandémonium, qui sont des incursions dans l'Uchronie et le steampunk. Donc c'est la raison pour laquelle vous êtes, évidemment, vous êtes dans cette table ronde. Alors l'histoire vous fascine en fait depuis toujours, et vous étiez aussi professeur, je crois, de lettres histoire, hein, c'est ce que voilà, nous avons appris, enfin ce que nous savons depuis quelques temps. Vous avez vraiment, je crois, aujourd'hui vous vous êtes imposé comme l'un des maîtres incontestés vraiment de l'imaginaire français et puis du steampunk aujourd'hui.
Ça fait plaisir à entendre en tout cas. Voilà. Je ne sais pas si ça correspond à la réalité, mais en tout cas, j'accepte. Bon.
Voilà, et puis vous faites beaucoup de conférences, vous faites des interventions aussi dans des collèges et des lycées. Voilà, donc vous êtes quelqu'un de très, très actif pour l'imaginaire. Voilà, alors on va partir justement de cette notion de rétrofuturisme. Puisque je dirais que le rétrofuturisme intègre deux tendances qui se chevauchent, pour faire simple, et qui peuvent se résumer ainsi. L'avenir tel qu'on le voit dans le passé et le passé tel qu'on le voit du futur. Voilà, ça c'est histoire de faire marcher les méninges à 11h15 juste avant midi. Mais le rétrofuturisme va mélanger aussi les styles artistiques et vestimentaires ainsi que les mœurs du passé aux technologies modernes ou futuristes, ce qui crée un ensemble d'éléments à la fois passé, présent et futur. Et puis, je ne sais pas, alors là, on demandera à nos écrivains ce qu'ils en pensent, évidemment, puisque ce sont eux les spécialistes. Je ne sais pas si on peut véritablement... le steampunk est une branche, sans doute, du rétro-futurisme. Et le steampunk, c'est un terme qui désigne la projection de la technologie futuriste dans une ère victorienne alternative et l'application de styles néo-victoriens à la technologie moderne. Hein, c'est-à-dire un mélange, en fait, entre notre monde contemporain et le 19e siècle. Alors justement, par rapport à ça, est-ce que vous pourriez me donner votre définition du rétrofuturisme ? Alors, si vous n'avez pas de définition, peut-être simplement une œuvre, un personnage steampunk ou rétrofuturiste qui vous a marqué. Joanne ?
Moi, je sais que, mais alors, sans connaître tous ces termes à l'époque, mais moi, je pense que mon premier rapport avec ces genres ou sous-genres, je ne sais pas comment il faut les nommer, c'est d'abord passé par l'image. Et moi, c'était quand j'étais gamin et que je regardais, par exemple, Les Mystères de l'Ouest à la télévision. Voilà. Et quand ces cow-boys étaient confrontés à des machines incroyables, à des éléments de science-fiction, choses comme ça, bah c'était déjà du steampunk, mais sans, le nom est apparu bien après. Et en revanche, en littérature, c'est un petit peu la même chose. Moi, j'ai commencé à en lire sans savoir de quoi il s'agissait. Enfin, toutes ces définitions sont apparues bien après. J'ai lu dans les années 90... même à la fin des années 80, je ne sais plus exactement quand les traductions sont parues en France, mais les bouquins comme Les Voies d'Anubis de Tim Powers, Homunculus de c'était Blaylock, je crois, je ne sais plus. Et puis le fameux troisième qu'on cite souvent en exemple, mais que j'ai vraiment lu aussi à ce moment-là, bien sûr, dont j'ai oublié le bon, ça me reviendra, mais enfin, voilà, j'ai lu ces auteurs anglo-saxons qui mélangeaient joyeusement, parce que c'était quelque chose de très, 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 très joyeux, très différentes strates de l'histoire, des technologies futuristes avec des sociétés du passé. Et ce qui m'a fasciné vraiment, c'était quelque chose que je lisais pour la première fois, que je découvrais qu'on pouvait, dans un roman, voilà, mélanger sans aucune restriction tous ces éléments, et que ça donnait quelque chose d'unique, que ça fonctionnait. Et c'est ce qui m'a sans doute influencé. Enfin, ça m'a, disons, c'est resté gravé en mémoire. Et quelques années après, quand je me suis senti prêt à me lancer dans un premier roman, je dirais c'est presque naturellement que j'ai ressorti ces influences-là, que j'ai mélangé à ma passion, enfin du moins mon intérêt pour certains personnages historiques, et à mon tour, je dirais, enfin, j'ai produit du steampunk, mais sans le savoir, puisque pareillement, c'est après que mon premier livre, La Lune seule le sait, soit paru, qu'on m'a expliqué de quoi il s'agissait. Voilà, c'est...
Oui, c'est tout à fait, c'est vraiment intéressant, Emmanuel.
Oui, si je devais donner une définition toute personnelle, évidemment, ce serait que pour moi, c'est mettre la technologie au service de la magie. Magie au sens large, dans le sens de ce que ça peut procurer comme émerveillement. Disons que pour moi, c'est l'occasion de ne pas se limiter à quelque chose. Si je prends l'exemple de Sélestopol, justement, moi, j'ai voulu tout de suite me débarrasser du côté en fait, techno, avec l'utilisation d'une espèce de... La cité est située sur la Lune, justement, et utilise une espèce de gaz qui est justement presque magique, finalement, parce qu'il permet d'alimenter tout ce qu'on veut. Et pour moi, ça m'a permis de me concentrer plutôt sur les personnages, sur l'univers, et sans me mettre des barrières, justement, de scientifiques, on va dire. Donc, pas taper, je ne suis pas vraiment un scientifique dans l'âme. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça, c'est mettre la technologie au service de la magie, mais une magie au sens large, pas forcément des projections de boules de feu et des dragons mécaniques, même si les dragons mécaniques, ça serait cool, en fait. Voilà.
Donc, Floriane ?
Eh ben moi, c'est un peu les deux, parce que... Enfin, moi, c'est mon père qui m'a fait lire de la science-fiction et de la fantasy. Il a commencé très jeune, il m'a fait lire des... J'avais 9 ans, il m'a fait lire des trucs qui me faisaient pleurer, il m'a fait lire des fleurs pour Algernon, c'était horrible, je pleurais pendant des semaines. Et dans le tas, il y avait Jules Verne, et il y avait Les Voies d'Anubis. Et c'était la première fois en tant que petite fille que je me disais, en fait, l'histoire, c'est pas figé. C'est pas parce que c'est fini qu'on peut plus rien en faire. Et moi, j'aimais beaucoup l'histoire. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, genre, c'est trop cool. Genre, les voyages dans le temps, tout ça, on peut faire plein de choses. Et puis du coup, et qu'est-ce qui se serait passé si on avait fait ça et pas ça? Et puis après, j'ai grandi. Et pour le coup, moi, je suis une scientifique. Genre, vraiment, j'ai une formation scientifique. Et du coup, c'était vraiment l'occasion de pouvoir mélanger tout ça, toutes les possibles, et tout en gardant un côté, et si scientifiquement on avait réussi à trouver ça, et si cette chose scientifique avait été possible, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Et là, c'est vrai que c'est devenu une espèce de passion, parce que moi j'adore les machines, je travaille dans l'aéronautique, donc tout ce qui est aviation, c'est génial, les dirigeables, tout ça, c'était le paradis. Je pouvais faire tout ce que je voulais, tout ce que j'avais pu imaginer, c'était parti, on pouvait faire tout ce que je voulais. C'était vraiment très cool. Et puis après, le steampunk m'est venu par le cinéma beaucoup. Wild Wild West et plein d'autres films comme ça que j'ai vu petite, que mon père me faisait voir ou qu'on allait voir au cinéma, et par beaucoup tout l'aspect vestimentaire, en fait, que j'ai découvert plus grande, où je voyais quand j'allais en salon et que je commençais à écrire tous ces gens avec des super costumes, genre tous faits à la main, avec des corsets, plein d'améliorations des bras mécaniques, plein de choses comme ça. Et là, je me suis dit, mais en fait, oui, genre ça, c'est quelque chose qui me plaît, que j'ai envie d'explorer. Et pour moi, le steampunk, c'était d'abord ça. C'était vraiment genre réécrire une histoire pour montrer qu'elle n'est pas figée et des vêtements. Il y avait vraiment une esthétique générale.
Voilà, bah c'est vrai que c'est le mot que j'ai employé. C'est avant tout un genre qui relève de l'esthétique, parce que même par l'image, les films ou les séries qui s'en rapprochaient, je pense que ce qui frappait, même si c'était, on ne l'exprimait pas forcément de manière évidente quand on était plus jeune, c'est, on était d'abord frappé par une esthétique avant tout, effectivement.
Puis ça brille. C'était tout du laiton, c'était plein de nouvelles matières qu'on n'avait plus l'habitude de voir, parce que surtout dans les années 90 où il y avait une très grosse tendance à la science-fiction, très futuriste, très poussée, et là on revenait à des choses, le cuir, les déserts, les machines qui s'abîment, tout ça, c'était avait un côté un petit peu presque nostalgique, intéressant.
Complètement, avec pas mal de clins d'œil, de toute façon aussi à l'esthétique des pulps de l'âge d'or, etc. Enfin, il y avait une sorte de... On revenait, enfin, je ne vais pas dire à... quelque chose de plus naïf, mais ouais. Dans le bon sens du terme, voilà, de la science-fiction. Et avec une sorte, bah justement, alors, ce qui est intéressant pour toi, qui est une scientifique pure et dure, parce que pour moi, toutes ces science-fictions-là relèvent d'une sorte d'anti-art science. Enfin, on est vraiment...
Oui.
Tu avais raison de dire que la vision de la science qu'il y a dans nos romans relève presque de la fantaisie, de la magie. Parce qu'effectivement, si on regarde en détail comment ça fonctionne vraiment, ce qu'on met en place, effectivement, c'est magique. Quoi.
Mais après, on m'avait souvent demandé sur ma chaîne comment je situais le steampunk entre la fantasy et la science-fiction. Et en fait, moi j'ai souvent dit que la fantasy c'est vraiment le domaine de la magie, la science-fiction c'est le domaine de la science, et le steampunk c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on peut trouver un équilibre entre magie et science. Enfin, c'est l'endroit où on peut encore faire les deux, où c'est pas incohérent et incompatible d'avoir les deux au même endroit. Et ça se voit par exemple, je pense à American Face de Xavier Dolo et Anne Fakouri, où on retrouve ça, où c'est une ambiance un peu steampunk dans l'âme, dans le Chicago des années 30, mais il y a ce côté avec toutes les fées qui sont encore là, qui vivent cachées, et du coup en fait c'est pas du tout choquant d'avoir une technologie avec des voitures, des choses comme ça, et à côté de la magie, ça s'imbrique bien, c'est la bonne atmosphère pour mélanger les deux.
Oui, c'est un genre passerelle qui fait la jonction, je pense, entre ces deux genres de l'imaginaire qu'on oppose assez souvent, mais là finalement il y aurait tendance à les réunir, ça c'est juste.
Oui. Aujourd'hui on parle aussi de genre hybride, c'est-à-dire qu'en fait on a vraiment une hybridation, je pensais notamment par exemple à la fantasy urbaine qui est encore, qui est un genre un petit peu voisin, qui s'apparente pas forcément au steampunk, mais vous voyez qu'il a aussi est un mélange finalement de mythologie, de folklore et puis de monde contemporain. Et Emmanuel, est-ce qu'il y a une œuvre justement rétrofuturiste ou steampunk qui vous a vraiment marqué peut-être et donné envie d'écrire ça?
Pas exactement dans ce registre-là. Moi, c'est vrai que aussi, petit comme beaucoup de monde, j'ai lu Jules Verne. Et c'est vrai que j'ai été très marqué par de la Terre à la Lune notamment. C'est vraiment ce genre d'écrit qui ont aussi façonné un peu mon imaginaire et puis ma fascination justement pour cette application de la science, vu que chez Jules Verne c'est quand même toujours ça peut faire sourire maintenant évidemment, mais je veux dire l'obus, comment il était designé pour techniquement atteindre la Lune et puis permettre à ses voyageurs à l'intérieur de survivre, etc. Moi, ça, ou le Nautilus dans 20 milieux sous les mers, bien sûr. Forcément, c'est vraiment c'est plus ce genre de référence que j'avais en tête, sachant que moi, à la base, le steampunk, j'en ai pas beaucoup lu. Donc, j'ai pas de roman fétiche dans le genre récent, on va dire.
Mais... Non, mais Jules Verne, c'est bien, parce qu'en fait, justement, Jules Verne, mais c'est dans le sens où c'est une. Aujourd'hui, c'est vraiment une des sources du courant steampunk. Donc, oui, vous êtes à l'origine, en fait. Hein, c'est vraiment la littérature originelle.
En plus, même si on dit que. Par exemple, ça a été prouvé après que l'obus de la Terre à la Lune ne pouvait pas du tout permettre de sortir de l'atmosphère, ça ne marchait pas du tout. Mais en fait, mine de rien, quand on lit les Jules Verne, c'est très, très scientifique. Même si ça ne marche pas. Il a vraiment essayé de réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait donner. Et par exemple, dans La Lune Mystérieuse, le premier tome, on peut faire de la nitroglycérine. Il y a toutes les infos pour faire des bombes.
C'est sûr que...
Voilà, ça s'adressait quand même à un public averti. On était avec des enfants, mais c'est très scientifique. Je pense que c'était intéressant parce qu'à l'époque, même s'ils savaient que ce n'était pas forcément réalisable ou pas, ils essayaient vraiment et ils ne prenaient pas ses lecteurs pour des idiots. Ils leur donnaient des vraies informations.
Non, c'est sûr. Puis même en prenant l'exemple du Nautilus, c'est quand même quelque chose qui... C'est tellement, ça finit par être tellement crédible.
Ça fait vrai du coup.
Qu'on a envie d'y croire, ne serait-ce que justement pour le côté magique.
Oui, et puis le Nautilus fonctionne à l'électricité. Donc, oui. C'est ce qui, évidemment, à la fin du, enfin, même la seconde moitié du 19e siècle, était une anticipation extraordinaire et en même temps, voilà, complètement fantaisiste pour l'époque. Mais pour nous, pas tant que ça. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une référence par rapport au steampunk. Alors, j'avais envie de vous poser justement une deuxième question. Pourquoi, pour vous, cette volonté, finalement, de réécrire un passé historique? Il y a évidemment ce mélange entre le contemporain et puis l'historique, on l'a bien compris. Mais quand on est, par exemple, dans un mouvement uchronique, et je sais que Joanne écrit souvent d'uchronie, pourquoi avoir envie, finalement, de réécrire un passé historique? Alors, est-ce que ce serait une sorte de vertige temporel? On a évoqué hier, dans une autre table ronde sur la science-fiction, c'est Laurent Sunner qui a utilisé ce terme, qui était vraiment intéressant. Voilà, sorte de vertige temporel, finalement, où on aurait la possibilité, en tant que créateur, de changer le passé.
C'est intéressant, je pense que plus ou moins consciemment, oui, ça doit relever aussi de ça. Il y a un plaisir réel à s'emparer de grandes figures de l'histoire ou de grands événements et finalement à les manipuler, si on veut, à leur créer de nouveaux destins. Bon, le dernier exemple en date personnelle, voilà, je me suis attaqué à Louis XIV, voilà, avec un réel plaisir. D'une part, parce qu'il y a un petit peu le côté figure intouchable des grands noms illustres de l'histoire. Donc, déjà pour ça, je dis non, mais non, il n'est pas plus intouchable qu'un autre, c'est pas vrai. Et puis, pas oublier aussi le côté ludique, ça reste un jeu aussi, enfin, du moins pour ce qui me concerne, c'est un jeu que de changer déplacer les pions sur la carte de l'histoire et d'imaginer autre chose. Au départ, c'est quand même ça, voilà. Mais effectivement, qui peut mener jusqu'à cette sorte de vertige, de se dire finalement, on se rend compte en faisant cet exercice qu'il suffit parfois de peu de choses, d'un tout petit événement, pour avoir de très grandes conséquences complètement différentes de ce qu'était la réalité. Donc oui, là, il y a ce petit côté vertigineux de se dire, mais finalement, si.
En plus, toi, tu t'es attaqué avec ton premier livre directement à Jules Verne, quoi.
Oui, oui, alors voilà, c'était en forme d'hommage. Alors, même ce qui peut paraître bizarre, ce que j'expliquais à l'époque, on ne me croyait pas, enfant ou même adolescent, je n'ai jamais lu Jules Verne. J'ai commencé à le lire, d'ailleurs, peu avant d'écrire mon premier roman, donc j'avais déjà pratiquement 30 ans, mais je me suis plus intéressé à la figure, à ce qu'il représentait justement aujourd'hui, Jules Verne, à l'imaginaire qu'on lui a collé, et pas forcément à l'homme et l'œuvre précisément. Voilà. Et je dois avouer, alors là, ne me jetez pas de cailloux, je trouve qu'aujourd'hui, il n'est pas marrant à lire, Jules Verne. Quoi. Voilà, oui.
Ah, mais c'est un auteur du 19e, donc c'est pas une lecture forcément facile et accessible. Et puis justement,
son côté didactique, parce qu'il ne faut pas rappeler voilà, que c'était la commande de son éditeur. Et il fallait qu'il soit didactique, qu'il apprenne des choses aux enfants. Donc effectivement, quand il faut s'enquiller toutes les pages de 20 milieux sous les mers, j'avoue que c'est des pages que j'ai sautées. Ça.
Oui, Emmanuel, donc pourquoi vous, cette volonté justement de réécrire le passé, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Parce que c'est vrai que moi, à la base, j'aime beaucoup l'Uchronie en général. Et puis, tout le monde s'est posé un jour la question « et si ?». Et donc, moi, c'est vrai que les divergences, on va dire, dans les lignes temporelles, ça m'a toujours fasciné. Et là, déjà, c'est vrai que dans le Célestopol, par exemple, je place l'Empire russe sur la Lune. Donc forcément, à un moment ou à un autre, ça a dû diverger avec notre histoire. Mais c'est vrai que ce que j'aime aussi, c'est que ça permet de conserver quand même un cadre quand même finalement historique, dans le sens où on garde un canevas qui est lui qui donne des repères tout de suite, enfin des repères immédiats au lecteur. Là par exemple, quand on est quand on se balade entre 1880 et 1930, tout de suite c'est quand même des époques pas si éloignées où on peut quand même, en général, tout le monde a une certaine idée de l'époque qui fait que, même si parfois c'est des idées fausses, mais je veux dire, spontanément, on est déjà directement plongé dans l'intrigue, et pour moi, on peut plus se concentrer, mais comme je le disais, sur le parcours des personnages, ou justement l'univers, en quoi il est différent de la véritable histoire, on va dire. Et voilà, moi, c'est de façon générale, l'Uchronie m'a, plus que le steampunk, je veux dire, m'a toujours beaucoup fasciné. Après, plus pas forcément les figures historiques, même si j'avais beaucoup aimé le roman de Javier Negrete, je crois, sur Alexandre le Grand. Et, mais à la limite, je préfère, dans mon cas en tout cas, je préférais m'intéresser ou m'inspirer au commun des mortels, si on peut dire. Voilà. Mais à leur vie, à leur quotidien, et en quoi il peut être différent avec ce qu'il était vraiment dans l'histoire qu'on a connue.
Alors finalement, l'Uchronie, alors peut-être Floriane, vous pourriez répondre à cette question, mais l'Uchronie, c'est un petit peu le fantasme du voyage temporel de la science-fiction, mais sans les paradoxes temporels tels qu'a pu, par exemple, les énoncer René Barjavel dans Le Voyageur imprudent, qui est finalement la base, c'est-à-dire qu'on peut changer le temps, mais on recrée un autre monde et pas un monde finalement qui ne peut pas exister, comme c'est souvent le cas finalement dans les romans de science-fiction.
Pour moi, oui, je pense qu'il y a un petit fantasme de se dire cette époque-là, je ne l'ai pas vécue, du coup, je vais y aller quand même. Mais d'une autre façon, parce que de toute façon, l'histoire, elle est actée, elle est comme elle est, donc on sait ce qui s'est passé. Et moi, j'aime bien cette idée de me dire, par exemple, Rousse passe à la Belle Époque, donc il y a tout un fantasme de la Belle Époque sur la prostitution, par exemple, et sur ce Paris un peu rêvé. Et en fait, c'est une époque où je me suis dit, j'aurais bien aimé voir comment c'était vraiment. Bah, du coup, allons-y, en fait. J'ai eu carte blanche, de toute façon, ça a déjà existé. Et avec l'Uchronie, et ça tombe la Belle Époque parfaitement dans l'époque du steampunk, je peux refaire ce que je veux. Et pour le coup, moi, voilà, je suis un peu plus comme Emmanuel du côté des petites gens. J'ai quelques personnages, j'aime bien faire des clins d'œil, genre un petit Louis Lépine qui se trimballe par-ci par-là pour dire bon, voilà, c'est telle époque, on est dans les clous de la bonne époque, des bonnes dates. Mais c'est vrai que j'avais envie d'aller voir un peu tous ces gens dont on ne parlait jamais, en fait, qu'on a un peu cachés, et me dire, et si j'étais là-bas, qu'est-ce que je verrais, qu'est-ce que j'irais voir, comment ça se passerait. Et je pense que oui, c'est un peu une espèce de fantasme du voyage temporel à l'envers, en se disant que de toute façon, c'est acté, donc. On craint rien, on ne va pas ramener de choses ou changer de choses. Parce que de toute façon, on réinvente quelque chose qui existe déjà. On ne va pas aller voir plus loin et se dire on va faire quelque chose qui pourrait peut-être se passer. Puisque de toute façon, c'est déjà terminé. Donc, je pense que oui.
Alors, justement, pour faire le lien avec votre réponse, quelles sont les périodes historiques ? Quelles sont vos périodes historiques préférées ? Et pour vous, peut-être les plus aisées, les périodes dont vous allez vous servir ou celles, finalement, qui vont vous permettre de réécrire des histoires ?
Moi, c'était la Belle Époque.
Voilà.
1870-1920, c'est ma période.
D'accord, bon. Floriane, mais pourquoi Floriane aussi,
en fait,
peut-être ?
Parce qu'il y a tout ce fantasme de la Belle Époque... sur Paris, il y avait toutes ces femmes. C'est une période qui est à la fois très prolixe en termes social et technologique parce que on quitte la révolution industrielle. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu d'énormes avancées technologiques. On a eu l'électricité. Il y a eu énormément de choses. Il y a eu les premières voitures. Il y a eu les trains. Enfin, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Et socialement aussi, c'est très riche. On a une émancipation des femmes. Il y a tout ce fantasme autour des maisons closes qu'on retrouve dans Rouille, par exemple, sur voilà, c'est des femmes qui sont libérées, mais en même temps, on essaie de les forcer à rester dans certains carcans. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé à cette époque et qui a été complètement rétrogradé après, pendant la Première Guerre mondiale. Mais il y a eu vraiment des avancées. Les femmes ont commencé à dire « Mais non, en fait, je peux faire ce que je veux ». C'est ça que j'avais envie de montrer. Et du coup, c'est une période qui, depuis très longtemps déjà, m'intéressait beaucoup, sur laquelle j'avais fait beaucoup de recherches. Il y avait eu des super expos à Orsay sur cette période-là, sur la prostitution à Paris et tout ça. Et du coup, ça me semblait tout à fait logique de raconter ça. Et de parler de cette période. En plus, ça me permettait d'explorer tout le côté esthétique du steampunk qui me plaisait beaucoup, de mettre un petit peu de science aussi, et de rajouter, enfin, de mettre un petit peu toutes ces choses qui me plaisaient au même endroit et d'en faire quelque chose que j'espère pas trop mal.
D'accord. Johan ?
En fait, pas forcément une période privilégiée, puisque je me suis attaqué à plusieurs périodes. Alors, la fin du 19e siècle, donc avec La Lune seule le sait, mais ensuite, dans le cadre du même univers, je suis remonté vers le 20e siècle. Alors, en quittant le steampunk, alors que certains spécialistes m'ont dit, mais après, j'ai fait du diesel punk. Je me suis intéressé aux années 30 avec la suite, voilà. Mais aussi, j'aime beaucoup l'Antiquité romaine. Donc, deux ou trois fois, j'y suis venu dans des livres qui sont à mi-chemin entre le steampunk, la fantasy, etc. Je pense à Reconquérant, par exemple. Ça, tout simplement, depuis tout petit, j'étais impressionné par les péplums voir des légions romaines à l'écran, ça m'impressionnait. À tel point que plus tard, quand j'ai poursuivi des études d'histoire, je me suis spécialisé... modestement, justement, dans cette période de l'Antiquité. Donc, voilà, elle est réapparue dans quelques-uns de mes romans. Voilà, dans le dernier, c'est le XVIIe siècle. Enfin, j'aime Maintenant, alors, je reste toujours très attaché à cette, à ces littératures-là, plusieurs projets dans le genre. Et justement, j'ai un petit peu envie d'explorer des époques différentes à chaque fois, de ne pas me cantonner à une même époque.
Oui, mais par exemple, dans Grand Siècle, pourquoi le XVIIe siècle ?
Ah bon, c'est parti de quelque chose de tout bête. Ça faisait longtemps que je n'avais pas réécrit du chronique. Je voulais y revenir parce que ça reste... vraisemblablement le genre que je préfère pratiquer. Et la première question que je me suis posée, voilà, c'est à qui je vais m'attaquer, à quelle grande figure historique je vais m'attaquer. Et je me suis rendu compte que dans nos genres de prédilection, d'imaginaire, à de très rares exceptions près, le XVIIe siècle et Louis XIV n'avaient jamais été évoqués. Or, pour les Français, Louis XIV est peut-être sans doute le personnage historique le plus connu. Je pense que ça doit jouer entre Louis XIV et Napoléon. Et curieusement, voilà, autant, alors bien sûr, dans... les romans historiques, on en trouve à l'appel, mais dans les romans vraiment d'imaginaire, donc déviant vers la science-fiction, la fantasy, quasiment pas. Donc voilà, je me suis dit, je vais m'y attaquer. Et il se trouvait, dans le même temps, alors je suis passionné par la conquête de l'espace, et j'ai relevé un fait, moi qui me paraît amusant, c'est anecdotique, mais la durée du règne de Louis XIV, donc le roi qui a le plus longtemps régné, plus de 60 ans, correspond peu ou prou au laps de temps qui sépare les premiers essais des frères Wright et leur avion aux ailes de papier, qui a volé sur à peine quelques mètres, au moment où Armstrong pose le pied sur la Lune. Puis finalement, une grosse soixantaine d'années, on est arrivé de décoller d'un mètre à se poser sur la Lune. Et si c'était arrivé, finalement, sous la durée du règne de Louis XIV, si un personnage avait été assez puissant politiquement pour impulser cette même conquête. Voilà, vraiment d'où c'est parti, en fait, cette nouvelle trilogie.
Emmanuel ?
Oui, dans mon cas, bon, j'ai une longue liste, mais je vais essayer de faire court. C'est vrai que j'aime beaucoup, c'est sûrement un reliquat de mes études d'histoire, l'Antiquité aussi. Je suis un grand fan de Mithridate VI, Eupator, roi du Pont. Par contre, faire un bouquin sur lui, je pense que ça serait pas très vendeur. Mais non, dans ce que j'écris, par contre, c'est vrai que j'avais besoin d'un certain niveau de technologie, on va dire. Donc l'Antiquité, à moins de partir en très loin, justement, dans les modifications, on va dire, uchroniques, c'est quand même plus compliqué. Moi, j'avoue que dans mon cas, j'aime aussi beaucoup tout ce qui était révolution industrielle, sauf que Londres ne m'intéressait pas trop. C'est pour ça que dans Sébastopol, j'étais parti sur la Russie. Et puis, c'est vrai que dans l'Empire du Léopard, par exemple, c'est pareil... c'est beaucoup moins réaliste historiquement, vu que c'est pas du tout. Il n'y a pas eu de divergence avec notre monde, c'est vraiment un monde à part. Mais c'est vrai qu'on peut le rapprocher de la période des conquistadors. Sauf que moi, j'avais pas envie que ça se passe au 15e ou 16e siècle. J'ai décalé ça dans les années 1850 pour que, notamment, il y ait des. On puisse avoir des canons, des fusils, c'est quand même plus rigolo. Éventuellement, les débuts de la photographie ou des choses comme ça, quoi. Enfin, avoir moi, ce qui m'intéresse au niveau écriture, dans l'histoire, c'est vraiment les moyens qu'elle peut me donner en plus de mes propres idées et les outils qu'elle peut fournir. Voilà.
Alors justement, en parlant d'outils, là je m'adresse vraiment aux artisans d'écriture que vous êtes. Comment est-ce qu'on construit un roman rétrofuturiste ou un roman uchronique ? Comment est-ce qu'on s'y prend ? Donc nous avons Floriane qui est quand même à la base une scientifique, puis nous avons deux historiens. Donc voilà, comment est-ce que vous travaillez finalement un matériau de départ pour inventer votre roman ? Parce que vous avez parlé justement du monde plutôt quotidien, on va dire, des petits gens parce que c'est péjoratif, mais voilà, de ce que nous sommes, et puis après des grandes figures historiques. Voilà, donc j'imagine qu'il y a quand même un travail de préparation sans doute important.
Oui, et d'ailleurs, je tenais à préciser, je parlais uniquement de Louis XIV, mais en fait, ce n'est pas le personnage principal. Et moi-même, j'ai créé une famille d'ailleurs d'origine modeste. Ce sont des enfants d'un paysan qui arrive du duché de Lorraine. C'est eux les vrais héros de cette série. Donc, c'est aussi les petites gens, les gens du peuple, mais l'a dit, c'est effectivement sans aucune notion péjorative, tels qu'ils étaient les plus nombreux et qu'ils faisaient, c'est eux qui faisaient l'histoire aussi, et qui la subissaient. Moi, je pratique de la chose suivante. Je commence déjà par penser à mon histoire et ensuite, je vais faire des recherches pour trouver des éléments qui seront utiles à nourrir mon intrigue. C'est-à-dire, alors, je ne vais pas m'immerger, parce qu'en plus, sur le XVIIe siècle, il existe des tonnes et des tonnes d'ouvrages. Donc, ça aurait été, je me suis focalisé sur un nombre très restreint d'ouvrages, le dictionnaire Louis XIV, des choses comme ça, ou des ouvrages, justement, qui ont plutôt attrait à la vie quotidienne. Et surtout, je suis allé dans les textes d'époque. Voilà, pour trouver une langue, pour trouver un état d'esprit et pour trouver des faits du quotidien. Je suis allé chez certains chroniqueurs, j'essaie de trouver sur différents sujets des textes écrits par des gens qui vivaient l'époque pour essayer de m'imprégner plus d'une ambiance. Bien sûr, quand j'avais besoin de détails précis, parce que je fais référence ensuite à de vrais événements, là, j'avoue, je me suis contenté soit de magazines historiques ou d'Internet pour aller chercher vraiment le détail. Et quand je ne trouvais pas ce détail, c'est l'imagination de l'auteur, je dirais, qui a fait le travail. Voilà.
Oui, parce que sur la langue, par exemple, au XVIIe siècle, on est sur le premier état du français moderne, hein, c'est-à-dire c'est le français que nous pouvons encore comprendre parce qu'il a été figé dans l'histoire de la langue par notamment l'Académie française créée par Richelieu à l'époque. Mais il y a encore des archaïsmes, donc il y a quand même une spécificité finalement de ce français moderne qu'on va bien sûr retrouver dans votre roman également.
Oui, complètement. C'est une période de transition à ce niveau-là aussi. Donc, L'ancien monde est encore vraiment très présent dans les cultures, mais on a ce jaillissement vers le français moderne aussi.
Oui. Oui, donc il y a quand même une question de vraisemblance aussi,
qui
est tout à fait importante.
En dépit de l'invraisemblance technologique de l'intrigue, le fond historique, pour moi, doit rester toujours absolument vraisemblable. Le fonctionnement de la culture, tout ça doit rester très très cohérent avec au plus près de ce que c'était vraiment à l'époque. Voilà, ça, j'y tiens absolument, quand bien même l'intrigue va partir sur des rails qui s'éloignent énormément de l'histoire. Voilà.
D'accord. Emmanuel ?
Oui, c'est vrai que moi aussi j'aime bien, si possible, conserver une base, on va dire, historique, réaliste, jusqu'à la divergence, mais même après que ça ne parte pas dans des trucs complètement farfelus, genre 6 mois plus tard. Après, au niveau de l'écriture pure, on va dire que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est en général m'inspirer de petites touches, donc souvent des anecdotes, par exemple des histoires, ou moi j'aime bien les photos d'époque un peu creepy. Par exemple, dans Sélestopol, c'est vrai que j'ai une nouvelle qui est inspirée de cette mode qu'il y a eu à la fin du 19e aussi, où parfois les parents prenaient en photo leurs enfants morts pour conserver une trace, quoi, mais avec des petits costumes et tout. C'est pas forcément quelque chose d'ultra connu, donc c'est pas un grand fait historique, mais c'est vrai que c'est ce genre de touche d'authenticité aussi qui peut apporter un plus au récit, ou justement sonner vrai. En tout cas pour les gens qui sont un peu intéressés aussi. Mais c'est plus par, surtout dans le cadre d'un recueil de nouvelles, par exemple, c'est plus par petites touches qui vont se compléter. Et après, on recule et on a une vision d'ensemble qui, je l'espère, est à peu près dans les clous. Voilà.
Oui, Floriane ?
Moi, c'est un peu les deux, en fait. Comme j'avais déjà une bonne base sur tout ce qui était Belle Époque, je suis allée chercher des ouvrages de référence sur la vie dans les maisons closes. Donc, c'était presque technique, en fait, comme ouvrage, où vraiment, il parlait de la vie, c'était des photos d'époque, c'était des registres de police sur des mœurs, sur savoir comment étaient cataloguées les prostituées, comment étaient organisées les maisons, comment se différenciaient les prostituées qu'on disait encartées, donc qui travaillaient dans la rue, par rapport à celles qui ne travaillaient pas dans la rue, ce genre de choses. Et après... Après, généralement, je fais des recherches quand j'ai besoin d'éléments techniques. Par exemple, à un moment, l'héroïne va dans un aérodrome et elle doit monter. Enfin, c'est un aérodrome étagé, donc elle doit monter. Je me suis dit, en fait, est-ce que les ascenseurs existaient en 1897? Donc, je suis allée chercher. Je me suis dit, est-ce qu'il y a eu des ascenseurs à vapeur? Et donc en fait, juste pour savoir si je pouvais mettre un ascenseur, j'ai fait une recherche absolument incroyable sur l'histoire des ascenseurs en France. C'était très passionnant. Donc il y a eu deux sortes d'ascenseurs à vapeur et après on est passé très vite à l'électrique en fait parce que c'était une période un peu charnière. Et donc c'était très intéressant. Ou par exemple, je me suis demandé où était la morgue dans Paris. Et du coup en fait, il y a des anecdotes dans le roman où elle dit, enfin l'héroïne demande, mais on va pas à la morgue, enfin voir les cadavres parce qu'en fait on exposait les cadavres repêchés dans la Seine pendant un certain nombre de temps pour que les gens puissent venir dire s'ils les connaissaient ou pas, pour qu'ils puissent être identifiés. Sauf qu'en fait, c'est devenu une espèce d'attraction européenne et on venait de toute l'Europe voir des cadavres exposés en vitrine. Ça a duré plusieurs années jusqu'à ce qu'ils ferment parce que ça devenait vraiment n'importe quoi. Et du coup, voilà, c'est des petites anecdotes comme ça marrantes que j'aime bien. Alors du coup, on retrouve un petit peu ça dans le roman. Et parce que j'aime bien faire des recherches pour les romans, mais c'est vrai qu'on se laisse facilement emporter. Il faut se mettre des limites, sinon on pourrait ne faire que des recherches et plus écrire en fait.
Oui, donc ça c'est important quand même, parce qu'il y a un moment donné, il faut que la fiction prenne le pas.
Moi, je suis d'accord
voilà,
avec ce qu'ils ont dit. Je pense que, surtout comme on n'invente pas quelque chose de complètement nouveau, on choisit quand même une époque précise, on a quand même une espèce de devoir de réalité. Enfin, on change les choses, mais on veut quand même qu'on reconnaisse l'époque dans laquelle on écrit. Donc il faut quand même qu'on reste un minimum cohérent et qu'on apporte quelque chose qui fasse vrai, qui fasse... tangible, quelque chose auquel les lecteurs peuvent se raccrocher. Sinon, on fait de la fantaisie, c'est plus du tout de l'uchronie.
Oui. Est-ce que voilà, moi je suis d'autant plus heureux parce que ça fonctionne parfois. Je me suis rendu compte avec le recul que c'est tout à fait le genre de livre donc qui relève clairement de la science-fiction, mais qui réussissent à intéresser aussi des gens qui sont absolument pas lecteurs de science-fiction, voire qui se déclarent hostiles au genre pour tout un tas de mauvaises raisons et qui seraient par exemple qui sont plutôt amateurs de lecture historique. Alors, je les préviens, mais oui, mais il y a des extraterrestres dans les choses. Mais comme ils peuvent se raccrocher à des figures historiques ou à un fond historique qui se tient malgré tout, ben voilà, moi j'ai eu le cas assez régulièrement de lecteurs qui s'y retrouvent malgré tout. Je trouve ça amusant, ce qu'on rajoute, mais le fait que ce soit ancré effectivement dans une trame historique dans laquelle ils vont retrouver des repères qu'ils savent exacts, les embarque dans l'aventure.
Voilà. Oui, donc vous récupérez en fait un petit peu du lectorat de romans historiques. D'accord.
D'où l'importance effectivement voilà, de rester crédible et cohérent dans notre fond historique, parce qu'on ne peut pas se permettre de raconter n'importe quoi dans l'univers qu'on crée sous prétexte que l'intrigue elle-même va dévier de l'histoire.
Et alors, justement, quel est votre rapport à l'histoire, tous les trois, dans le sens où, donc Emmanuel, par exemple, vous avez parlé de l'histoire antique, de Mithridate. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette période-là? Enfin, voilà, pourquoi être vraiment fasciné par l'histoire?
Par l'histoire en général, c'est l'Antiquité, je ne sais pas, c'est tout petit, c'est la période qui m'intéressait le plus historiquement, parce que l'Empire romain, effectivement, c'était quelque chose. Mais oui, en fait, c'était plus... Là, pour le coup, j'étais avec Mithridate, c'est plutôt les opposants. Mais justement, c'est vrai que c'est peut-être dans le cas précis de ce roi, c'était peut-être la figure de David contre Goliath, je sais pas, mais... En tout cas, oui, moi, il y a quelque chose de comme Alexandre le Grand aussi, se tailler un empire à cet âge-là, de ces dimensions-là, avec, encore une fois, les moyens de l'époque. Non, moi, c'est quelque chose qui... C'est une fascination. Après, pour l'expliquer en détail, j'avoue que je ne saurais pas dire, mais oui, c'est là, pour le coup, je me rattache plus aux grandes figures... J'avoue, et à la vision d'ensemble en fait, de l'Antiquité plutôt qu'à quelques points précis. Quoi.
Oui, peut-être une fascination qui est liée aux grandes figures historiques qui deviennent des figures mythiques. Parce qu'Alexandre le Grand est quasiment mythifié aujourd'hui, même si évidemment c'est un personnage qui a existé et qui n'a rien à voir avec des personnages de la mythologie. Mais c'est peut-être cette dimension-là qui
clairement, oui, je pense qu'il y a de ça, parce que c'est le personnage, en fait, puis dire s'échappe de l'histoire pour atteindre effectivement une dimension presque mythique. Et je pense que quelque part, oui, c'est ça qui me fascine, en tout cas personnellement.
Oui, Floriane, peut-être.
J'ai une époque qui m'a beaucoup plu, notamment parce que j'avais lu Les Voies d'Anubis. C'était l'Égypte ancienne, parce qu'encore une fois, il y avait cette dualité où c'était quand même des bâtisseurs incroyables. Enfin, on ne sait toujours pas refaire des pyramides aujourd'hui. Et à côté de ça, ils avaient toute une série de mythes, enfin, toute leur religion. C'était quand même un peuple très pieux, avec beaucoup de... Il y avait de la magie dans leur quotidien, en fait. Ils allaient prier, ils avaient un roi qui était divin, le pharaon était d'origine divine, il était choisi par les dieux. Ils arrivaient à mélanger tout ça, et du coup, c'est vraiment un terreau propice à réinventer ce qui aurait pu se passer. Et voilà, c'est une période qui m'a beaucoup fascinée pendant très longtemps, et... Peut-être un jour j'écrirai sur ça. Il y a des choses à faire.
Mais je pense que l'Égypte, c'est vraiment... C'est fascinant. C'est fascinant. Une période fascinante. Mmh. Et puis quand vous parliez de magie, par exemple, quand vous regardez la structure d'un temple égyptien, où on pénètre très, très progressivement, et puis au fond, vous avez cette salle où il y a la statue du dieu, mais qui est complètement magique.
Ils construisaient des temples pour leur dieu bien plus impressionnants que leur palais. Ne serait-ce que la vallée des rois, quand on voit les tombeaux qui se faisaient construire, c'est incroyable. Et on se dit, vraiment, pour eux, c'était quelque chose qui était plus... Leur vie après la mort était plus importante que leur vie maintenant. C'est-à-dire que les choses qui allaient se passer dans l'au-delà, c'était vraiment, pour eux, c'était ça qui comptait. C'était ce que les dieux allaient faire, c'était leurs âmes, c'était vraiment... Il y avait vraiment, je pense qu'il y avait de la magie dans leur vie tout le temps. On n'a plus ça, nous, aujourd'hui.
Ce qu'on ressent vraiment, d'ailleurs, en allant en Égypte. Hein,
je ne suis pas allée.
Voilà, j'espère, mais écoutez, moi, j'y suis allée deux fois. J'espère. Non, mais c'est quelque chose qui est tout à fait juste. La magie se ressent vraiment au quotidien, quand on visite ces endroits-là. Et Joanne, alors, votre rapport à l'histoire, ça,
oui, ça relève un petit peu de la même chose, je crois. Plus on va s'éloigner de notre époque et remonter dans le passé, plus on va se rapprocher d'une sorte de dimension héroïque, même, enfin, mythologique, mais même héroïque au sens qui nous procure, je pense, moi, les mêmes sensations que ce qu'on recherche dans nos littératures. Voilà, parce que finalement, c'est tous ces peuples qui vivaient avec la magie, du moins avec la croyance en la magie, sont pas très différents de ceux qu'on va mettre en scène dans nos livres. Donc quelque part, je trouve qu'il y a peut-être que ça relève aussi de ce rapport à l'enfance aussi qui recherche, qui nous permet, qui nous force nous peut-être à rechercher aussi ce passé magique. Je sais pas. Je pense à titre personnel, il y a quelque chose de cet ordre-là, voilà, de cette fascination. Alors, c'est moins vrai effectivement pour les époques plus proches, encore que je pense que par exemple le 19e siècle, à mon sens, a encore un côté c'est le siècle qui prépare notre modernité, mais c'est encore aussi finalement un siècle de croyance, et puis finalement le début de la science, il y avait une part de magie aussi, de croyance scientifique, de choses, donc voilà, ouais, moi, cette part magique, cette part, c'est ça peut-être encore, moi, qui me fascine.
Au 19e siècle, fin du 19e, il y avait le grand mouvement du spiritisme,
par exemple,
auquel a participé, oui, par exemple, Camille Flammarion, qui était quand même un des immenses scientifiques,
voilà,
de la fin
du
19e.
Mais c'était une période où on pouvait encore être plein de choses. On pouvait être mathématicien et astrologue, on n'avait pas des cases comme on a maintenant, donc on pouvait faire beaucoup de choses, c'était pas interdit.
Alors, dernière question, parce que je vois que l'heure tourne. Quel est finalement, avec une utilisation du temps verbal, quel est le roman rétro-futuriste que vous auriez aimé écrire? Ou peut-être que vous allez écrire? C'est une question difficile.
Un roman existant ou...
Oui, existant ou peut-être à inventer.
Aucune idée.
Une autre époque peut-être à visiter.
Oui, moi je pense que ce serait encore une époque qui n'aurait pas été encore vraiment énormément explorée, du moins en imaginaire. Je ne sais pas.
Et le Moyen Âge, en fait, parce que vous nous avez parlé de l'Antiquité, du XVIIe siècle, mais il y a toute cette période, voilà, Moyen Âge, Renaissance,
c'est vrai
qui
que
est moins utilisé.
Renaissance, c'est pas trop.
Renaissance non plus. Peut-être parce qu'on a vu, on a l'impression fausse que c'est un petit peu la chasse gardée de la fantasy. Je ne sais pas. Alors peut-être que là, en tant qu'auteur plutôt de science-fiction, mais ce serait intéressant. Alors peut-être vraiment, le Moyen Âge, le haut Moyen Âge.
Il faudrait prendre en compte quand même une composante religieuse hyper forte, quoi. Moi, ça me ferait peur, je pense.
Oui, ce serait,
il faudrait s'attaquer vraiment de fond à l'émergence du catholicisme, oui, et tout ça, oui, et c'est compliqué, je pense.
Mais peut-être, pourquoi pas, alors la période de jonction entre la fin de l'Empire romain et le début de, voilà, peut-être ces âges-là, qui sont vraiment pas très, très, très connus, enfin, moi, en tant que public.
Des âges de rupture.
Oui, non, mais il y a, oui, non, je ne dis pas que ça... Mais
voilà. Emmanuel, allez, dernière.
Non, je pensais échapper à la question.
Ouais.
Je dirais, ça a déjà été fait aussi, mais peut-être la conquête de l'Ouest, mais sous un angle peut-être plus notamment là, tout ce qui est les grandes plaines, plutôt que l'image du Far West tel qu'on a avec les buissons qui roulent dans la poussière. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans pour le côté justement exploration et puis... par exemple, je pensais à, on a parlé récemment, à un livre très intéressant, L'Empire Comanche.
Ouais, c'est
donc pour le coup, qui est vraiment un bouquin historique. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout une fiction. Et je pense qu'il y aurait des choses à faire là-dedans, parce que c'était quand même un peuple fascinant et avec qui a tenu la dragée haute à ses envahisseurs pendant longtemps. Et oui, je pense qu'il y aurait des choses à faire peut-être là-dedans et qui sortiraient un peu du... Mais bon, en tant que grand lecteur de fantasy, par exemple, le Moyen-Âge, ça me tente pas du tout. Parce que j'en ai beaucoup trop... Enfin, j'ai beaucoup trop lu de romans de fantasy pseudo-moyenâgeux. Donc, pour ce qui est d'écrire quelque chose là-dedans, non, sans moi non plus.
Bon. D'accord. Bien, nous arrivons à la fin de ce café littéraire. Est-ce que vous avez des questions à poser? Voilà, à notre... Alors par contre, est-ce que nous avons un micro pour le public? Non, il n'y a pas de micro pour le public, donc vous allez parler fort, ou alors vous venez devant et je passe le micro.
Voilà. Merci. La question sera pour tous les auteurs. D'une part, la fantaisie n'est pas liée à une époque déterminée, puisque par définition, l'auteur est très libre de faire ce qu'il veut par rapport à nos périodes historiques connues. Et ensuite, la technologie, c'est souvent pour nous aussi lié à une époque. On avait l'âge de bronze, l'âge de fer, l'âge de la pierre à pierre fusil, l'âge de la poudre, du diesel, l'électricité, le nucléaire. Et en voyant le titre du café, j'ai pensé à la roue du temps et d'autres écrits qui font arriver une civilisation à une ère technologique tellement avancée qu'elle finit par s'effondrer sur elle-même, revenir à un monde post-apocalyptique qui repart de zéro et redécouvre son passé avec des objets d'une technologie qui est même pas concevable. Et du coup, on a une... C'est dans le début de la roue du temps, c'est même pas commencé. Ça fait des boucles et on redécouvre son passé dans son futur. À quel moment on peut se dire que la technologie atteint son point limite et que le futur est déjà atteint et ne risque plus de que devenir notre futur passé? Vous n'avez pas le temps de répondre tout de suite, mais c'était une réflexion que j'ai eue.
Il y a une autre œuvre qui fait ça, c'est L'Empire Merci. Brisé de Lawrence, je crois, où en fait, c'est ça ? Et en fait, c'est un monde médiéval, et en fait, on se rend compte qu'il y a des poches, il y a encore des poches de civilisation, enfin, que en fait, le monde s'est effondré, et certains personnages redécouvrent des poches de civilisation, et donc ils sont face à des intelligences artificielles à ce moment qui leur parlent, et ils pensent que c'est des dieux. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'en fait, non, c'est probablement pas des dieux, et c'est tout comment ils vont utiliser l'arme nucléaire et toutes ces choses qu'ils vont trouver ponctuellement dans leur monde, complètement arriéré, parce qu'ils sont vraiment revenus du début, et c'est très intéressant. C'est vrai que la question est compliquée, mais intéressante.
Voilà. Bien, je crois que vous n'aurez pas mieux. Voilà. D'autres questions pour nos auteurs? Non, pas d'autres remarques? Bien, eh bien, nous allons vous remercier. Et puis, surtout, bien, lisez ces romans qui sont tout à fait fascinants, hein, uchroniques ou rétrofuturistes. Voilà, et nous vous souhaitons une bonne journée, bonne continuation. Merci à vous.